Chapitre 20. Madame Voisard n'était pas la seule personne de Saint-Maclou qui se préoccupa et parla du départ de Marichette. En réalité, ce brusque départ qui éclatait tout à coup, sans que rien ne lui fût pressentir, avait été pendant assez longtemps le sujet de toutes les conversations. Pourquoi la cousine de Belloc a-t-elle quitté le pays? Pourquoi la servante de Belloc a-t-elle quitté le pays? Ce n'est pas la même chose. Qui peut savoir? Divine était enceinte. Êtes-vous certain que Marichette ne le soit pas? Elle ne se serait pas réfugiée chez Belloquet. Qui vous dit que ce n'est pas sa cousine qui la garde pour déconsidérer Belloquet-né quand la grossesse de la jeune fille sera apparente? Cela serait fort. Pas au-dessus de sa force, cependant. Elle est capable de tout pour se venger de son cousin. Si la jeune fille est enceinte, ce n'est pas de son fait. Sans doute, mais ce qui est bien de son fait, ce serait de vouloir exploiter la grossesse de Marichette dans l'intérêt de sa haine. Comme il ne s'était trouvé personne d'assez hardi pour interroger franchement Simon Belloc et lui demander les raisons du départ de Marichette, on s'était rabattu sur les commis qui, semblait-il, devaient savoir quelque chose. Avec Paulin, les questions n'avaient jamais été loin. Il avait une manière de répondre qui coupait court à l'interrogatoire. M. Belloc voulait faire de sa cousine une servante. Cela n'a pas convenu à la famille qui lui a repris la jeune fille. Et c'était tout. Il n'en disait pas plus long, pas plus qu'il n'en écoutait davantage. Mais avec Victor de Dessus-la-Mare, on ne s'en tenait pas là, alors surtout que c'était des camarades ou des amis qui le questionnaient. « Alors c'est de ta faute si la cousine de Belloc a quitté Saint-Maclou ?»« Mais pas du tout. »« De qui serait l'enfant s'il n'était pas de toi ?»« Qui a dit qu'il y avait un enfant ?»« Enfin, s'il y en avait un. »« Ces suppositions sont stupides. »« À qui la responsabilité si elle se présente à la pensée ?»« Qui nous dit qu'elle avait capitulé ?» Victor n'avait pas attendu jusqu'à ce jour pour regretter ce mot qui lui avait échappé dans un moment de forfanterie, exaspéré par les doutes et les railleries de ses camarades, et plus d'une fois il avait cherché à les atténuer, puisque par malheur il ne pouvait pas les rattraper. Capitulez, je n'ai jamais dit ce que vous voulez me faire dire. Ce n'est pas parce qu'une honnête fille éprouve un sentiment tendre pour un homme qu'elle devient enceinte. Tu as dit qu'elle avait capitulé. Tu n'as pas parlé du sentiment tendre. » Et le malheureux timide avait beau se défendre, on lui cornait son mot aux oreilles. « Capitulez, capitulez !» On le poursuivait littéralement avec cette capitulation. Non seulement ceux à qui il avait fait cet aveu, mais encore ceux à qui il avait été répété. Tous, bien entendu, ne croyaient pas à la capitulation, mais aucun de ceux qui connaissaient Victor ne doutait de ses entreprises auprès de Marichette, et pour beaucoup, c'était une explication suffisante pour justifier le départ de la cousine de Simon Belloc. « Elle a voulu échapper aux poursuites de ce grand niais, » disaient les indulgents. « Il n'est pas bien dangereux. Au moins est-il ennuyeux. Pourquoi ne l'a-t-elle pas fait renvoyer par son cousin ?» Elle a mieux aimé s'en aller. D'ailleurs, il n'est pas du tout certain que le cousin se serait privé des services d'un garçon qui lui est utile. Quel que soit le besoin de commérage d'une petite ville, et quelle que soit la malignité de gens qui n'ont du matin au soir qu'à s'occuper de leurs voisins, on aurait cessé bien vite de parler de Marichette si elle n'avait pas été la cousine de Monsieur le maire de Saint-Maclou. Mais il y a des gens qui, quoi qu'ils fassent ou ne fassent pas, soulèvent le brouhaha autour d'eux et le traînent à leur suite. Simon Belloc était précisément de ces gens-là, et 20 fois, 100 fois par jour, son nom revenait dans les conversations à propos de choses graves qui étaient la fortune et la vie du pays, comme à propos de niaiseries. Qui n'avait pas affaire à lui ? À l'entrepreneur de voitures, au marchand de bois, au marchand de charbon, au marchand d'eau-de-vie, au maire, au conseiller d'arrondissement. Belloc, toujours Belloc. Et alors, tout naturellement, on revenait à Marichette. Il n'y avait pas qu'entre soi qu'on parlât d'elle et de sa disparition inexpliquée. À la pierre à poisson, devant 30 ou 40 personnes, il avait été fait allusion plus d'une fois à cette disparition. c'est que la Pierre Poisson était le journal parlé de Saint-Maclou et un journal universel où Liché, avec une liberté de langue, un esprit de plaisanterie et de critique qui ne s'arrêtait devant rien, y traitait tous les sujets, les nouvelles politiques et administratives, les faits divers, les annonces. Le tambour de la ville n'était rien à Saint-Maclou, Liché était tout. Quand on avait une annonce importante à faire, ce n'était pas au tambour qu'on la donnait, c'était à Liché. Alors, à la façon dont celui-ci sonnait la cloche pour l'ouverture de la vente, on savait qu'il ne serait pas question seulement de poissons. C'était une musique que cette sonnerie, que chacun traduisait. Deux coups lents et espacés, annonce de messe et d'enterrement. Plusieurs petits coups joyeux et précipités, annonce drôlatique que Liché égayait de ses plaisanteries. On accourait. Mettez le pesson sur la pierre, disait Liché. Et quand le pêcheur qui commençait la vente avait étalé un poisson sur la pierre, Liché se mettait à crier. « À combien? À combien? À combien? À combien ?» Comme une mécanique, il répétait précipitamment ces deux mots jusqu'à ce qu'il vit assez de monde autour de lui. Alors il s'interrompait. « C'est pas tout, ça. Attention! Je suis chargé de vous dire qu'il a été perdu une clef. » Il décrivait la clé et numérant les rues dans lesquelles elle avait dû être perdue. « On est prié de me la remettre, il y aura récompense. » « Maintenant, au pesson. À combien le cabillaud? À combien? À combien ?» Mais où il excellait, c'était dans les demandes de domestiques. « C'est pas tout, ça. J'ai à vous dire que Madame Voisard demande une cuisinière. » Là, il faisait une pause et par un jeu de physionomie qu'aurait envié un comique, il indiquait son opinion sur la maison Voisard, puis il reprenait « La maison est bonne. » Ici, nouvelle pause et nouveau jeu de physionomie qui disait « N'y entrez pas, mes pauvres filles !»« Les gages sont élevés, disait la langue. Seulement, on est exposé à ne pas les toucher, disait le sourire des yeux et la moue des lèvres. » Et ainsi, jusqu'à la fin, sans prononcer un seul mot contre personne, mais avec des roulements d'yeux, des mouvements de lunettes, des haussements d'épaules, des renversements en arrière, qui en disait plus pour son public que les accusations les plus formelles. Un jeudi que Madame Moreau était indisposée et ne pouvait pas descendre à Saint-Maclou, elle avait prié son fils, s'il passait par hasard derrière la pierre, de lui acheter du poisson pour le lendemain vendredi, et Paulin, qui ne cherchait qu'à être agréable à sa mère et à lui rendre service, s'était arrangé pour passer à la pierre au moment de la vente. Quand il était arrivé, Liché criait pour attirer son public. « À combien? À combien? Mettez le pesson sur la pierre !» Le cercle s'étant formé, Liché avait cessé de crier « À combien ?» et, raffermissant sur son nez ses lunettes vertes, « C'est pas tout, ça, avait-il dit. Je suis chargé de vous avertir que demain et les jours suivants, à cause de l'arrivée d'un monsieur prêtre dans la paroisse, il y aura messe à 6h30. » Et comme quelques bonnes, parmi lesquelles se trouvait celle de Belloc-Aîné, avaient accueilli cette annonce en riant, il s'était fâché. Il était sacristain et ne permettait pas qu'on fût irrévérencieux pour les cérémonies du culte. C'était presque une injure personnelle qu'on lui faisait à lui qui portait la Vierge Noire. V'a-t-il pas de quoi rire? S'il y a des personnes que ça n'intéresse pas, sa physionomie avait dit tout le mépris qu'il professait pour ces personnes-là. Il y en a d'autres. Il les avait assurés de son estime par une longue inclinaison de tête. Qui sont bien aises d'avoir ce renseignement. C'est pour celles-là que je parle. Quant à celles qui risent, j'ai à leur dire qu'elles feraient peut-être bien de fréquenter les églises. Il y en a qui, si elles les avaient fréquentées, n'auraient pas été obligées de quitter le pays dans des positions qu'on ne sait pas. Cela, jeté à la figure de la servante de Belloc, était clair pour les gens de Saint-Maclou. C'était une allusion à Marichette qui avait quitté le pays dans une position qu'on ne savait pas. Paulin l'avait compris ainsi et son premier mouvement avait été de s'élancer pour Liché pour l'étrangler. Heureusement, la pensée de Marichette l'avait retenue. Il ne la vengeait pas, il la perdait. Déjà, Liché avait repris son boniment. Mettez donc le pesson sur la pierre. À combien? À combien? À 8 sous le carrelé. 9 sous? 10 sous? C'est bien vu, pas de regret, vendu. Quelle meilleure justification du parti adopté par Marichette que ces paroles de Lichet. Elle avait senti qu'on l'accuserait et elle n'avait pas voulu que ces accusations pussent atteindre son mari. Ne méritait-elle pas qu'il l'aimât plus encore qu'il ne l'aimait?